RMC Entre les Poteaux,
Pierre Thévenet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les Poteaux. Samedi soir, 27 juin, le Stade Toulousain est rentré dans l'histoire. Quatrième titre consécutif en top 14 pour égaler un record remontant au milieu des années 90, établi déjà par le Stade Toulousain. Un match particulier, bien entamé par les Rouges et Noirs avant que le MHR ne se rebelle et n'échoue qu'à 8 points, 28 à 20. Les hommes de Johan Codulo avaient des regrets après la rencontre. Comment Dupont et sa bande ont-ils tenu les Montpelliérains à distance? Y avait-il vraiment la place de gagner pour les Héraultais? Où placez-vous cette dynastie toulousaine dans l'histoire du rugby français? Entre les Poteaux vous décrypte tout ça tout de suite.
Soit le quadruplé pour Toulouse, ou alors l'incroyable série du MHR qui peut être récompensée. La logique ou la récompense? La finale du top 14, c'est parti à l'instant! Il va y aller! Quel essai! La fin de passe de Bovacar avec une combinaison à la toulousaine! Les filous de Toulousain sur l'expérience! Mais à fou, à un mètre de la ligne! Voilà, là, c'était presque sur la ligne! Du pont hauteur, l'essai! L'essai de Movaca, le doublé pour Peato Movaca! Sur l'extérieur, Ntamak, dans le dos pour Blackingham qui est passé, attention! S'il y a décalage pour Teddy Thomas, il va aller marquer l'essai, non! Il est rattrapé à l'intérieur pour Dupont! Et l'essai
d'Antoine Dupont!
Le ballon pour Ngandebe qui s'enfonce maintenant dans la défense toulousaine, le crochet! Il va y aller dans l'intérieur, il va remettre! Avec l'essai! Les Montpelliérains signé juste au Picardo sur cet éclair d'Ngandebe!
On va entendre la sirène, 79 et 58 secondes. Vous allez entendre cette sirène et pénalité pour Toulouse!
Il dégage le ballon! C'est une dynastie 2023, 2024, 2025, 2026! Le Stade Toulousain bat Montpellier 28 à 20! Et champion de France pour la quatrième fois d'affilée.
Et Antoine Dupont se dirige vers le podium où il y a tous les Toulousains. Ils vont arriver au milieu et ils soulèvent ce bouclier de Brennus. 25e bouclier pour le Stade Toulousain, le quatrième de suite. La 12e finale remportée.
Et avec nous aujourd'hui, les suiveurs, bien sûr, des clubs toulousains et montpelliérains. On était tous ensemble au stade samedi soir. Wilfried Templier et Julien Landry. Salut, messieurs.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Qu'est-ce que vous retenez de cette finale? Avant tout, avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a une chose que vous pouvez ressortir de ce match?
Un jour sans fin. À la fin, c'est Toulouse qui gagne, quoi. C'est toujours pareil. Dans le détail, après, hein. C'est sûr qu'on va en parler, des regrets montpelliérains, des faits de jeu, c'est
inéluctable.
C'est nos confrères l'ont titré, voilà, inéluctable.
Et Julien, on était à côté en tribune, toi le suiveur montpelliérain, est-ce que tu as vu ce à quoi tu t'attendais?
J'ai revu le match et je comprends pas. Aujourd'hui, je comprends pas comment Montpellier a perdu ce match. Très honnêtement, c'est inexplicable. Honnêtement, au-delà de la performance toulousaine et de cette habitude, c'est inexplicable que Montpellier ait pu perdre ce match.
Inéluctable et inexplicable, c'est ça les deux mots.
C'est ça.
On va en parler, c'est souvent comme ça.
Bah, parce qu'on va commencer justement par le match de ces Toulousains. Will, pas forcément brillant dans cette rencontre, mais diablement efficace. Ils ont fait le trou en première période, des essais de Movaca, des essais de Dupont, et puis ils n'ont jamais lâché la tête.
Mais j'ai un confrère qui me disait, ces Toulousains, quand vous les avez dans le viseur, au bout du fusil, eh bien, faut actionner la gâchette. Parce que si vous ne le faites pas, eux, ils font à votre place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Surtout que Montpellier a mis une mi-temps à appréhender ce match. On rappelle le score, 25-6 à la pause quand même. Hein.
Bien sûr.
Et c'est tout leur mérite ensuite hein, d'être revenu. Mais il y a 60% de possession à la louche et de territoire pour le MHR. Rarement Toulouse n'a été bougé comme ça. Sauf que en quelques occasions, de miettes, moi je le dis depuis des mois, ça je le dis souvent, ils font un festin. Et avec le talent, la férocité aussi, on va y revenir, parce que
oui,
ils l'ont dit dans les coulisses, hein, l'engagement a été incroyable, terrible, et ils étaient même presque étonnés eux-mêmes de l'engagement qu'ils ont mis à certains moments. Mais sur quelques coups d'éclat, eh bien, ils tuent pratiquement un match.
Mais Julien, avant
c'est même pas des miettes qu'ils ont. Non, mais
ouais,
c'est même pas des miettes.
Ça, on sait même pas ce qu'ils ont fait.
24
en fait, Toulouse.
24 secondes dans les 22 mètres du MHR en première période, 3 essais. 24 secondes. Ouais. Vous imaginez 24 secondes. Montpellier, 1 minute 14 dans les 22 mètres du Stade Toulousain, 6 points au compteur. 24 secondes par le Stade Toulousain.
3 essais. L'efficacité,
c'est incroyable.
À la seconde.
C'est même plus des... Là, c'est pour ça que je dis que c'est même plus des miettes. C'est incroyable. c'est fou.
C'est mais fou. Tu t'en as parlé des stats rapidement, mais Montpellier a fait 230 mètres de plus balle en main, deux fois plus de courses, 8 défenseurs battus de plus. Toulouse a plaqué 80 fois de plus que Montpellier.
Non mais ça, regarde Pierre, tu montes les statistiques, tu montes les statistiques à quelqu'un qui a pas vu le match. Tu lui montes juste les statistiques.
Montpellier a gagné.
De la possession, de l'occupation, des pénalités concédées, 7 à 14, je crois que ça termine. Du temps passé dans les 22 mètres, tu l'as dit, des mètres parcourus, des plaquages cassés. Tu montes à n'importe qui a pas vu le match, il dit bah Montpellier en a passé 40 au Stade Toulousain avec la feuille.
Est-ce qu'on peut mettre cette victoire du Stade Toulousain juste sur leur expérience, leur habitude de ces phases finales, ou il y a quelque chose d'autre qui explique qu'ils aient été si efficaces dans ce match?
Il y a quelque chose de très symbolique, Pierre, sur ce match, parce qu'on parle toujours de Toulouse sur des actions de classe, sur des joueurs de classe, sur des essais, des trucs de funambule. Moi, c'est leur défense. Je crois qu'ils sont à 95% de réussite. C'est incroyable à la mi-temps. Et je regardais la vitesse de replacement, leur solidarité, leur engagement physique. Je pense qu'ils se sont dit, on le répète, ils prennent les adversaires sur leurs points forts. Ils se sont dit, OK, Montpellier est puissant, très fort, avance très fort. Il va falloir qu'ils nous passent dessus. Et ils sont sacrifiés, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sacrifiés tout en mettant un impact physique très, très fort aussi. Parce que pour stopper net, et quand on dit net, on a vu des plaquages, des chocs. Yeah. Quand Wélessé ou Vunipola arrivent lancés, c'est des monstres de la saison montpelliéraine, et qu'ils s'arrêtent net sur Willy, sur Méafou, qui a été monstrueux et à la limite parfois de l'engagement, sur Merclair qui plaque dans les chevilles. C'est du don de soi, en fait. Et je pense que c'est la base de cette équipe toulousaine, et on en parle, on ne met jamais ça en avant, mais c'est le don de soi individuel et collectif qui fait qu'ils partent de là, et après le reste, le talent fait la suite.
Justement, on parlait des points forts montpelliérains dans le combat, de la capacité des Toulousains à les contrer. Les Toulousains, tu le dis, ont répondu présent devant. Écoutez Romain Tamac qui parle de cette solidarité et du boulot de ses avants.
C'est dur de trouver les mots sur ce qu'on a réalisé depuis tant d'années, de ce qu'on a réalisé ce soir. C'est assez dur de trouver les mots, mais ouais, comme l'a dit Calvin, je pense qu'entre la demi et la finale, on s'est envoyé vraiment comme des lions tous. Du 23, on a mis une intensité en première mi-temps comme j'ai rarement vu dans un match de rugby. Nos avants ont été assez incroyables face à un paquet d'avants Montpellier qui est énorme depuis le début de la saison, qui était très dur à manœuvrer. Nos avants étaient assez exceptionnels, et puis nous on a essayé de jouer les ballons pour les bonifier, donc ça a tapé fort, et certainement ce qui nous fait gagner un match là, c'est qu'en première mi-temps, une énergie incroyable. Peut-être que Montpellier s'attendait pas à ce qu'on mette une telle intensité. Cette avance qu'on a en première mi-temps nous permet de gérer plus cette deuxième mi-temps qui est très moyenne de notre part, mais avec ce petit matelas là, on arrive à conserver l'avance qui nous fait gagner.
Julien, on se l'est dit plusieurs fois pendant le match, mais Toulouse a pris Montpellier sur sa défense, en conquête, dans le combat. Wilfried le dit, ils aiment les prendre sur leurs points forts. On dirait presque qu'ils prennent un malin plaisir à le faire, quoi. À se lancer un défi de dire, c'est eux les plus costauds, on va voir si c'est eux les plus
comment
costauds.
Comment désarçonner
l'adversaire. Je me rappelle de la déclaration d'Hugo Mola après le match du Racing. Alors on dit souvent qu'il fait de la com, mais il fait passer aussi les messages à ses joueurs. Et il avait dit, aujourd'hui on a fait un grand match, mais attention, la semaine prochaine, ça va taper beaucoup plus fort. Et je pense que dans la tête de Hugo Mola, il savait déjà qu'il allait avoir Montpellier sur sa route, parce qu'ils doutaient que la fraîcheur physique rentrerait en compte dans cette demi-finale. Et je pense qu'ils ont travaillé très fort depuis un mois, en se disant que l'adversaire le plus probable sur la dynamique pouvait être Montpellier. Et j'avais écrit un papier samedi après-midi en disant, si Montpellier veut gagner, il faut qu'il remporte la bataille des airs. Bataille des airs perdue, remportée par Brennan, qui a été un poison en touche, et par Roumat, qui ont suivi Verag et Nouchi. Ils ont même fini par faire sauter Béconnier, les Montpelliérains, ce qui est rarement arrivé cette saison. J'avais dit, il faudra gagner la bataille des rucks. Les rucks, Willis, il a plané sur la guerre des rucks. Pourtant, Montpellier était la meilleure équipe de la saison avec Béconnier meilleur gratteur. C'est Willis qui a fait ça, et le secteur le plus fort des Montpelliérains depuis le début de la saison, on avait dit que c'était la mêlée. On peut reparler de l'arbitrage, j'en ai revu beaucoup aujourd'hui, des mêlées au ralenti.
On en reparlera.
Ils ont quand même récupéré un bras cassé, ils ont récupéré une pénalité, ils ont subi une seule pénalité sur leur impropre introduction, ce qui n'est rarement arrivé cette saison pour les équipes qui affrontaient Montpellier. Donc sur tous les points forts montpelliérains, Toulouse a été meilleur.
Tu penses, Wilfried, que comme souvent, c'est devant que ça s'est joué et toutes les finales, on le disait déjà l'année dernière, je me rappelle, après la finale contre Bordeaux, en disant que finalement, c'était les avant-toulousains qui avaient pris le dessus. On parle beaucoup de Jack Willis parce que c'est le symbole de cette équipe. C'est lui le meilleur joueur du Stade toulousain depuis un moment et c'est lui qui a mené cette équipe de Toulouse et ça en dit long sur le match qu'ont fait les Toulousains.
Mais ça a toujours été le cas sur les finales. Alors 2019 face à Clermont, pas forcément, enfin, c'est un peu plus loin.
Oui, et 2024,
mais
c'est
les affrontements. Les 2024, il n'y a pas de match. Hein. Les Bordelais sont cuits. Mais il y a les deux affrontements, les trois affrontements, ou même les affrontements avec La Rochelle, en fait. La Rochelle qui n'a jamais gagné un match de phase finale face au Stade Toulousain. Il faut avouer qu'en 2023, ça s'est joué à un exploit, que La Rochelle avait. Avait trouvé la clé.
Avait la main sur le match.
Et il y a des Toulousains, notamment Julien Marchand, j'en ai discuté avec certaines personnes, qui disaient que le pack Rochelet de 2023 avait été vraiment trop, trop dur à manier. Et c'est vrai que ça se fait sur l'exploit d'Entamac. Mais sinon, les autres matchs face à La Rochelle, le match l'année dernière face à Bordeaux, celui face à Montpellier, bah oui, c'est toujours les avants. On va passer, et ça n'a rien de sarcastique, hein, mais un message à Vincent Moscato qui, depuis 2 ans, dit « Attention, les Toulousains, ils peuvent se faire bouger devant. » Mais il prouve que non, en fait. Ils ont été, on va y revenir avec Montpellier aussi, hein, ça a été dur pour eux en deuxième mi-temps.
Bien sûr.
Mais ils avaient fait l'essentiel. Ils avaient fait l'essentiel avec beaucoup de choses. Et ils ont réussi encore avec de la gros roublardise. Rappelez-vous la mêlée après le carton jaune à Lebel, les 10 minutes de Montpellier qui n'arrivent pas à marquer, ça finit par un coup de pied de Dupont dégagement en avant de Taofi Finois. Mêlée. Et la mêlée toulousaine enfonce la mêlée Montpellier-Rennes et met 3 points. Et voilà, c'est l'image.
Au moment où
où
les premières lignes toutes neuves rentrent.
C'est une image, ça. Donc, voilà, ils sont toujours au rendez-vous devant. Ils sont toujours au rendez-vous. Dans la saison, ils peuvent se faire enfoncer. Mais quand François Cross nous le disait dimanche après-midi à l'arrivée à la gare Matabio, il disait quand ça compte, on gagne. Voilà.
C'est simple. Julien, tu les attendais si fort devant les Toulousains et dans le combat, dans cette volonté de se faire mal?
Alors Wilfried pourra en témoigner. J'ai jamais douté de la capacité à Toulouse à être là en phase finale. On avait fait le podcast sur Doutez-vous de Toulouse. J'avais dit, alors on s'était pas écharpé avec Wilfried, mais Wilfried avait vu des choses que moi j'avais pas vu. Mais j'avais trouvé que voilà, la dynamique me faisait penser à la saison dernière. Et que je savais, voilà, j'étais persuadé qu'ils allaient se préparer fort pour être là, à ce rendez-vous-là. Je ne pensais pas qu'ils allaient répondre autant. Le match qu'on a vu hier, jamais je ne me serais attendu à ce match-là. Que Montpellier ait plus de possession, que c'est Montpellier qui déplace le plus le ballon, que c'est Montpellier qui aille chercher les extérieurs, et que Toulouse fasse finalement du Montpellier un jeu restrictif, une défense de fer, une conquête solide. Je ne pensais pas que les Toulousains arriveraient à lever le curseur sur ce niveau-là. J'imaginais plus les Toulousains se dire « on va les contourner, on va les faire courir, on va les faire exploser ». Je ne m'attendais pas à ce match-là. Qu'ils répondent présent, je n'ai pas été surpris. Mais à ce niveau-là, oui, ils arrivent encore à lever des curseurs. Et c'est surprenant, cette équipe-là, cette capacité qu'elle a à se transcender, à élever les curseurs sur les matchs qui comptent. Ça fait 12 finales d'affilée remportées quand même. ça en dit quelque chose.
Mais on reparlera de cette dynastie tout à l'heure, du quatrième titre consécutif et du fait qu'ils pensent déjà au cinquième. Il y a un truc qui m'interroge un peu, c'est que Wilfried, sur leurs deux de leurs trois essais, c'est des mouvements de grande envergure, c'est des attaques de derrière. Il y a la combinaison Movaca-Dupont en touche, et il y a l'essai de Dupont aussi avec ce débordement côté droit de Teddy Thomas. Est-ce que c'est un choix de leur part de ne pas faire plus d'attaques comme ça, ou est-ce que c'est Montpellier qui les a vraiment embêtés? On n'a pas vu Barassi, on n'a pas vu Choco Barrès dans ce match, ballon en main, je veux dire. On a très peu vu Berkingham.
Ils étaient occupés à défendre.
Ils n'ont pas eu de ballon.
Mais sur le problème. Après, sur les ballons qu'ils ont eus, bah, ils sont dangereux. Ils sont dangereux derrière. On l'avait dit. De toute façon, on manque pas de respect aux trois quarts de Montpellier, mais la puissance
plus
de
frappe talent à Toulouse
en face. Et on l'a vu. Ils se font punir sur le coup d'envoi de Miotti direct en touche. Il y a une attaque avec, comme souvent, un ailier ou un arrière de l'aile opposée qui vient faire un plus un. Là, c'est King Horn, qui crée un décalage. C'est Thomas qui remet intérieur à Dupont. Ça paraît hyper simple en plus. Ça paraît hyper simple.
C'est ça, quand on l'a vu plusieurs fois. Non, mais quand ils le font, ça paraît si simple qu'on se dit, mais pourquoi vous ne faites pas plus?
Je crois qu'ils avaient déjà marqué comme ça en Coupe d'Europe sur une mêlée au centre. en faisant un plus 1 souvent, joue dans le dos, plus 1, décalage, retour intérieur, et c'est voilà. C'est, ça paraît simple comme ça, c'est aussi beaucoup de travail, de placement, de course. Et puis le coup de filou de Dupont qui voit bien, je ne sais pas si on a bien revu ça, si Ouellezé était pas au bon endroit puisqu'il était aussi un peu touché.
Moi je pense que Ouellezé, il est KO encore. Et moi je pense qu'il y a eu un gros souci sur Ouellezé, je comprends pas pourquoi.
Il est où?
Parce que quand j'ai revu le match à la première minute, il se fait éteindre par Mercler sur son genou. Il se relève et alors il dit que c'est le pectoral. D'ailleurs, avec Pierre, on pense qu'il s'est pété
le
pectoral.
Il tient tout de suite le pec. Ouais.
Et en fait, il reste 5 minutes sur la pelouse, mais je pense qu'il a plus toutes les lumières où il les est. Et que je pense que sur la touche, tu le vois, la touche elle est faite. Il va sur Dupont, mais sans vraiment y aller. Il est entre deux où il les est. Je pense qu'il est un peu dans les vapes sur ce coup-là, moi. Et c'est bizarre qu'il ait mis autant de temps à sortir le médecin le médecin indépendant sur ce cas où
il est. Ouais, qui coûte cher.
Ah bah exactement.
Donc, donc voilà, sur des après voilà sur les ballons qu'ils ont, c'est on parlait de solidarité, d'engagement et tout. Voilà, il y a aussi du talent. Vous imaginez depuis le temps qu'ils jouent ensemble, ces mecs en plus.
Bien sûr.
Donc ils se connaissent les yeux fermés. Hein, donc si ça doit jouer des coups rapides entre deux aussi joueurs entre guillemets, Dupont Movaca, c'est des mecs qui adorent le ballon quoi. Donc et en plus on voit l'image de, il y a eu plusieurs photos j'ai vu où Dupont fait signe à Movaca entre les poteaux, entre les poteaux. Et l'autre il est en train de sourire déjà, de regarder le public et de
non, mais le pire c'est pas plongeon. Dupont, c'est Cross. Parce que quand j'ai revu Cross, il vient l'engueuler. Ah, mais il engueule quoi. Il arrive, il dit tu fais chier en genre d'avoir aplati là, Ntama qui va pas pouvoir transformer. Bon, il la transforme. Mais Cross, il est venu mettre un savon incroyable.
Sur Instagram, Peato Movaca a mis confiance en mon frère en parlant d'Ntama, en rigolant, en partageant lui aussi le montage, en disant j'avais confiance, il allait la passer. Pour parler un peu des individualités, justement, Movaca fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Il avait fait une très belle demi également. On l'a peu vu cette année à cause de ses blessures, comme François Cross, comme Antoine Dupont, qu'on peut jouer avec le Stade Toulousain en top 14. Première question, est-ce que leur fraîcheur a fait aussi la différence dans cette finale et puis sur Peato Movaca, quand il est à ce niveau-là, c'est quand même assez exceptionnel.
C'est un 3-4 ans, fraîcheur, qui joue au talent.
La fraîcheur, j'ai pas trouvé les Montpelliérains empruntés. Moi, je trouve que les Montpelliérains, ils ont même plutôt l'ascendant physique sur cette équipe-là.
Non, c'est vrai.
Et que sur la deuxième période, si Montpellier est aussi proche de renverser Toulouse, c'est parce que j'ai l'impression que... sur les collisions, ils leur font mal. Que j'ai l'impression moi-même plutôt qu'ils ont pris l'ascendant. Mais après, c'est on a tendance à oublier. Et c'est vrai qu'il y a un tweetos qui avait répondu à l'article en disant on a tendance à oublier quand même que le paquet d'avant du Stade Toulousain, il est composé quand même des meilleurs Français qui jouent en équipe de France. Et que les trois quarts Toulousains, c'est quand même les trois quarts d'équipe de France. Donc après, d'un, ils sont frais. Et puis ça reste des joueurs extraordinaires qu'on a tendance peut-être. On a peut-être tendance à oublier à quel point ils sont forts, tout simplement. Ouais, on banaliser banalise. Leur performance. Ouais, c'est ça. On a peut-être tendance à banaliser
c'était d'ailleurs leur grand mot des... C'était le grand mot des Toulousains en conf de presse, Wilfried, c'est il faut pas banaliser. Et c'est eux qui ont l'impression qu'ils se le répètent pour pas oublier qu'il faut pas banaliser à quel point ils sont forts et à quel point c'est pas normal de gagner autant.
Thomas Ramos l'avait dit au début du printemps. Dans une conférence de presse, il y a toujours plein de choses à grignoter quand il vient en conférence de presse, Thomas Ramos. Il avait dit, mais franchement, un jour, les gens se retourneront sur tout ce qu'on a fait et se rendront compte que quand on sera plus là, que voilà, c'est bon, on va en parler après sur où placer cette équipe dans l'histoire de Toulouse, mais aussi du rugby français. Quand on sera plus là, que ce qu'on a fait, c'est monstrueux. Et oui, c'est parce qu'on parle des quatre à la suite, mais il y en a deux avant aussi. Hein. Donc il y en a six en tout, hein, des boucliers de Brennus.
Bien sûr, mais sur ce match-là, même si l'année dernière ils se font plus peur contre Bordeaux parce qu'il y a cette prolongation, est-ce que c'est pas celui où finalement on les a vus les plus chanceler sur les... Je parle pas des matchs face à La Rochelle, je parle des trois dernières saisons. Même si l'année dernière ça va en prolongation, la prolongation elle est dominée par Toulouse.
Oui, je suis d'accord,
sont
mais
pas inquiets. Là, en deuxième
score,
mi-temps,
en fait.
Ça vacille
un peu. Oui, mais pas
au score, mais le score
pas assez
est...
au score, en fait. Ouais. Sur le contenu du match, oui, trois fois oui, mille fois oui. Parce qu'à un moment, il y avait... Alors, dans la fin de match, ils disaient, ils nous l'ont dit après dans les coulisses, que Ntamack nous le dit, c'était pas nous de faire le jeu, on devait leur laisser la balle et tout. Mais malgré tout, sur l'ensemble du match, l'impression visuelle de Montpellier
bien
dans
sûr.
Le camp de Toulouse, bah, elle est...
Et au-dessus
elle est pas tout le temps, mais elle est à 80, 60, elle est aux trois quarts en fait.
Ouais, l'an dernier,
temps,
quand Bordeaux accroche
les...
Tout le temps
si tu revois le match, tu verras que c'est tout le temps. Ah, c'est incroyable.
Quand Bordeaux accroche la prolongation l'année dernière... quand Bordeaux accroche la prolongation l'année dernière, c'est sur des exploits, mais tu sens qu'il les pique et puis que Toulouse reprend un peu le contrôle et que Bordeaux arrive à rester dans le match.
Et
la prolongation, ils sont plus invités. Là, on a l'impression que si le match durait 20 minutes de plus, Montpellier pouvait passer devant.
Oui, mais si non, ou pas, parce que mais ils ont tellement manqué de réalisme que tu te dis que même avec 20 minutes de plus, ils auraient peut-être pas réussi à marquer. Mais oui, je pense que d'ailleurs Hugo Mola dit que la deuxième mi-temps elle est merdique. Alors dans ces cas-là, il y a toujours deux équipes. Et Toulouse fait pas une bonne deuxième mi-temps clairement parce qu'ils ont jamais la main sur le ballon. Ils arrivent pas à sortir de leur camp, ils arrivent pas à sortir de la pression. Et que Montpellier pour le coup fait une très bonne deuxième mi-temps en manquant de réalisme. Mais oui, je pense que tout le monde a senti hier. Je pense qu'au moment où Colli va marquer son essai à la 60e, là.
Et qu'il reste 18 minutes,
ouais. Il reste 18 minutes à jouer. Et que les Toulousains, ils ne sont pas sortis de leurs 22 mètres depuis le début de la deuxième période, quasiment. Tu te dis que les Montpelliérains, ils peuvent avoir l'occasion de faire basculer cette rencontre. Ce qu'ils ne font pas parce qu'à partir de la 62e, Toulouse, ils arrivent à le conserver. Ils ralentissent beaucoup de choses, les Toulousains, à partir de ce moment-là. Mais au moment où l'essai de Colli est marqué, je pense que dans les rangs du Gomola, il doit se dire. Va falloir serrer les fesses parce qu'ils sont sur nos talons.
On a parlé de Movaca, on a évoqué Willis, mais Will, je pense qu'il faut en parler plus en profondeur de Jack Willis, qui est encore homme du match de cette finale. C'est un des tout meilleurs du monde. On peut lui faire des louanges un peu. C'est exceptionnel. Il sauve une quantité de coups là, dans ses 22 mètres en grattant les ballons. C'est le capitaine.
J'ai trouvé un surnom, Pierre. Harry Potter.
Oui, c'est vrai. Mets les mains, le ballon apparaît.
Il est où le ballon? Il n'est plus là. Parce que des fois, on a même du mal à le voir quand il se penche dans
quand
le rock et qu'il tombe, et qu'il tombe dans le camp toulousain, qu'il se retourne dans le camp toulousain. On a du mal à voir qu'il a chippé le ballon. On se doute, vu le mouvement et vu les mouvements des coéquipiers autour, mais on ne voit même pas la balle. Donc il fait ça en une seule fois, en fait. En un mouvement, quoi. D'avant, voilà. Et c'est le Richie Mako toulousain aussi, parce que je pense qu'il joue bien avec la règle.
Il
fait
à la limite.
Et que parfois, il peut y avoir des rucks formés, que normalement, quand il y a un ruck qui est formé, enlever les joueurs qui sont au-dessus du ballon pour ensuite essayer de prendre le ballon. Et que des fois, lui, il arrive à glisser la main entre les mecs et à prendre ce ballon. Mais que dire de plus
C'est le plus fort du monde
ballons,
à son poste.
Voilà, on va refaire un.
Non,
il n'y
a pas beaucoup de meilleurs que lui. Hein. Le sauvetage qu'il fait sur la pénalité ou le carton jaune de Lebel, là, où les Montpelliérains récupèrent la pénalité, Momo Awas la joue, je ne comprends toujours pas pourquoi ils font cette décision-là. Il va percuter Momo Awas. D'ailleurs, il se plaint auprès de l'arbitre de me faire je ne sais pas quoi. Il y a un ruck
d'un plaquage haut, je crois.
Et tout et tout d'un coup, tu vois Willis, il sort, il a le ballon. Tu sais pas où il est passé, tu sais pas comment il a fait. Mais là, c'est un gros temps fort des Montpelliérains. S'il marque là, ça change le match. Et là, vraiment, le sauvetage de Willis là, suivi des deux sauvetages de Dupont, parce qu'on les a pas beaucoup vus, mais Dupont, il fait deux sauvetages dans la foulée sur des rucks. Il fait un contre-ruck et après, il vient sauver un ballon dans les pieds des Montpelliérains sur la place de Duguid. On en reparlera après. Mais Willis et Dupont, hier, ils ont sauvé la baraque défensivement.
On l'a dit, ce match a été loin d'être simple pour les Toulousains. Montpellier a tenu le ballon. D'ailleurs, on ne fait que parler de Montpellier depuis tout à l'heure parce que c'est eux finalement qu'on fait le jeu face à ce Stade Toulousain. Avant de parler de leur match plus en profondeur, écoutez les regrets de l'entraîneur Johan Cosulot après la rencontre.
Déçu, frustré, dominé n'est pas gagné. Si on a la possession, on fait moins de fautes que l'adversaire. Et malheureusement, on n'est pas assez réaliste alors que c'était un de nos points forts sur la saison régulière. On l'a pas été à Saint-Français, c'est passé. Et là, aujourd'hui, ça passe pas. Et c'est malheureux parce que c'est dur de venir ici. Je pense qu'avec un peu plus de contenu, proche de leur ligne, on gagne ce match. Très, très frustré.
Julien, c'est à la mi-temps, on se regarde à 25-6. On se dit que ça peut être très, très compliqué pour les Toulousains. On ne s'attendait pas quand même à cette deuxième période, avant de parler du manque d'efficacité, mais sur le plan de jeu et sur l'intensité qui est mise par les Montpelliérains sur cette deuxième période, c'était vraiment impressionnant depuis les tribunes.
Oui, ils sont revenus avec cette envie, en tout cas, de dire on va mourir. Johan Cosulot l'avait dit toute la semaine, j'ai pas envie qu'on passe pour des cons. On va mourir les armes à la main, on va les regarder dans les yeux. Et c'est vrai que ce début de deuxième période, il y a 10 minutes, mais vraiment impressionnante des Montpelliérains, avec donc cet essai marqué directement au retour des vestiaires, le petit coup de pied par-dessus de Miotti récupéré par Ngandébé. Dans un grand désordre. Les Toulousains récupèrent le ballon, coup d'envoi, les Montpelliérains le récupèrent. Action un peu fouillie, Auguste Cadeau tape à suivre, Oulézé à la course avec Mathis Lebel. Bah, l'essai, il n'est pas accordé, mais il y a carton jaune pour Lebel, donc tu te dis que ça peut tourner. Et puis après, il y a surtout cette action qui est incroyable. Les Montpelliérains remettent la main sur le ballon. Il y a il y a un, je sais pas, dans les 22 mètres adverses, c'est fouillis. Les Toulousains perdent le ballon. Il arrive dans les mains du guide, mais je vous promets qu'il y a un 6 contre 2 sur l'extérieur à jouer.
Sur l'extérieur,
et du guide,
à gauche, ouais.
Et du guide spécial, ce qu'il fait toute la saison avec Montpellier, qu'est-ce qu'il fait? Il va péter dans le mec qui est en face de lui.
Tout droit.
Retour intérieur, tout droit, en se disant physiquement, sans avoir regardé à l'extérieur, il se fait gratter le ballon.
L'image est terrible.
La foulée, hein. Ouais, et dans la foulée, parce qu'on
l'a
pas.
Il y a le score, il y a 28. C'est quoi 28
Il y a 28-13. Il y a 25-13.
Il y a 25-13. Donc on s'imagine 25-20 à ce moment-là. Hein, ouais. L'image est terrible, Julien. Il y a un désert toulousain sur la gauche et il y a 5 Montpellier.
Et dans la foulée, les Toulousains donc, récupèrent le ballon, se dégagent. Il est récupéré par Rusto Picardo qui fait un débordement sur le côté droit, qui sert Domingo Miotti au milieu du terrain. Et il y a dans le champ profond. Il y a Ntamack, il est sur les talons, il ne sait pas où défendre. Tao Finois, il court dans l'espace. Si Miotti met le ballon dans le champ profond, je ne dis pas que ça fait essai, mais c'est gros danger. Et Miotti fait du guide. Retour intérieur, je vais péter dans les avants toulousains. Il y a 5 situations franches en ce début de deuxième période où les Montpellierains ils n'ont pas réussi à revenir et à faire grossir le caillou dans la chaussure des Toulousains.
Et Julien, il y a ces actions. Vas-y, Will.
Juste, c'est la différence.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Négliger les autres équipes et tout, mais c'est, je sais pas, quand je parle des fois de QI rugby.
Ah oui, bien sûr. Voilà, mais tu l'as fait faire toute la saison, tu récupères le ballon, voilà. Tu vas taper. Très honnêtement, tu vois, c'est Vérag qui est à la place de Duguid. Vérag, il est élevé à l'école toulousaine, mais c'est la différence. Hein. Vérag, je pense qu'il lève la tête et il est capable de faire la vissée. Duguid,
il n'est même pas besoin d'une vissée, il est à 3 mètres.
Ouais, bien sûr,
mais ce que je veux dire, c'est que Vérag, ils ont l'habitude de jouer la tête. On le dit souvent, les Toulousains, ils jouent la tête haute, ils regardent ce qui se passe à côté. Duguid, il récupère le ballon, il ne regarde pas. Alors évidemment, à côté, on doit l'appeler. Mais lui, dans son habitude, il va tout droit. C'est Vérac, je pense que ça fait essai. Mais voilà, l'école toulousaine, la tête debout, regarder les extérieurs. Et comme le dit Wilfried, le QI rugby, savoir où le jeu va être.
Mais Julien, ce qui est le plus terrible pour Montpellier, on a parlé un peu des stats, c'est qu'il n'y a pas que ce début de deuxième période où il y a du gâchis côté Montpellier. Tu as fait la liste tout à l'heure, il y a un nombre incroyable d'occasions manquées, mais d'occasions, on parle d'à 5 mètres de la ligne.
Alors, il y a 9 actions d'essai franches pour les Montpelliérains. Quoi ? 9 actions d'essai annihilées par le Stade Toulousain. 12e minute. Pénal touche. Alors celle-là, j'aimerais un jour qu'un arbitre m'explique. Donc avantage en cours. Romain Ntamack sort en touche sur un coup de pied à suivre de Miotti à 5 mètres. Et Monsieur Ramos revient à la pénalité. Tom Banks tape une pénal touche qui est moins avantageuse que la touche sur laquelle Romain Ntamack est sorti. Donc je ne sais pas dans ces cas-là, est-ce que les Montpelliérains peuvent dire on préfère la touche que l'avantage. Bon, quoi qu'il en soit,
ils essaient de lui demander, donc je pense qu'il leur dit non.
Ouais. Ouais, pénal touche. Brennan vole le ballon devant Vérac, c'est quasiment l'une des premières touches des Montpelliérains. Derrière, les Toulousains s'en sortent miraculeusement. Béconnier gratte, pénalité, de nouveau pénal touche. Cette fois-ci, Vérac récupère le ballon, il désaxe le groupe pénétrant. Faute qu'on a toujours
pénalité
pas
contre Montpellier.
Il estime que ce n'est pas le même groupe pénétrant.
Moi, je pense pas qu'il faut.
40e, pénal touche pour les Montpelliérains. Il récupère le ballon cette fois-ci. Flamand fait une faute cynique qui aurait pu coûter cher. Ali Price perd le ballon. Et après, je vous ai raconté ce début de deuxième période avec les 4-5 occasions franches. Et ensuite, il y a deux. Après la dernière action de Duguid, ils ont encore deux temps forts. Il y a la pénale touche juste avant la sortie, juste avant la coupure de 13 minutes, où Roumat change ses appuis sur le ruck. Il devrait être pénalisé. Il pénalise les Montpelliérains. Et derrière, les Montpelliérains arrivent à remettre la main sur le ballon, décident de jouer une pénalité. Dans les pieds
très
avec
bizarrement
patin, ce qu'ils font toujours. Et derrière, normalement, les Montpelliérains, ils font des petits tas, et avec la puissance, ils finissent par avancer. Et au deuxième temps de jeu, Ali Price, il va chercher Léo Colli, en avant de Léo Colli.
Qui venait de rentrer.
Bon, après, il se
rattrape
avec les
ça fait
derrière.
Mal à chaque fois. Hein. C'est
inexplicable d'avoir raté. Alors après, mais saluons à chaque fois le travail des Toulousains. Hein. Non, mais saluons le travail des Toulousains parce que le compte de Brennan en touche, il est parfait.
Bien sûr,
c'est du travail de longue haleine des Toulousains, parce que Montpellier est l'équipe qui marque le plus sur le groupe pénétrant, et les Toulousains, ils ont réussi à empêcher les Montpelliérains de mettre la marche avant. Il y a des situations d'essai où les Montpelliérains, ils peuvent s'en vouloir, celle de Duguid, ils doivent s'en vouloir, mais il y en a où c'est la valeur de la défense des Toulousains qui a tout simplement empêché Montpellier de mettre son jeu en place. Mais ça reste fou. Je regardais le match. Je vous avoue, j'étais dans le train. Donc je regardais le match. Mais oui, la mamie, elle était à côté de moi parce que je faisais des grands gestes en regardant la télé.
Dans le train, tu m'as expliqué aux gens.
J'ai expliqué aux gens en disant oui, dans le train, la mamie qui était à côté de moi, elle regardait
l'écran.
Deux, trois
percus, la mamie à côté, quoi.
Mais
non, on la prenait pas, quoi.
Mais je dis, mais c'est un pompier là-bas. Ça m'énervait en le revoyant.
Mais ça, on se l'est dit aussi au stade hier. Sur cette percée de Miotti, on dit l'extérieur.
Mais oui, c'était fou.
Will, est-ce qu'il peut y avoir un côté main qui brûle en finale? Moi, j'avais même pas l'impression que c'était ça. On a l'impression que c'était de la tension côté Montpellier. C'était plutôt parfois des coups mal joués. Comme tu dis, plutôt cuir.
Ouais, mais non, ou que Toulouse te met le doute à un moment dans la tête. Mm-hmm. Quand t'es contré une fois, deux fois, trois fois sur les groupés pénétrants, une fois sur un ballon joué à la main, t'as le deuxième qui arrive derrière et tu te cours après le score parce que t'as fait des conneries, que Toulouse a pris le score. Voilà, ça fait ça vous fait faire des scories, et comme disait Philippe Saint-André, qu'on ne va pas imiter, le haut niveau c'est des détails.
Le haut niveau c'est des détails, mon Wilfried.
Il peut pas s'en empêcher.
Voilà, c'est le travail de sable des Toulousains, un peu de maladresse montpelliéraine, qui a raté des choses, et Julien pourra nous le dire, les Montpelliérains qu'ils ne rataient pas dans l'année en fait. Il les a vus faire tout l'inverse de toute l'année, être réaliste, froid, être costaud, et voilà.
C'est un match qui ressemble à la demi-finale quand même. Voilà. Non, mais ça ressemble à la demi-finale parce que Montpellier, pareil, à la demi-finale, il doit y avoir 40 points à l'heure de jeu si les Montpellierains font preuve d'efficacité, ou 30 points, les 40, j'exagère, mais peut-être 30 points. Peut-être que voilà, contre le Stade Français, c'est passé parce que ils étaient au-dessus physiquement et que ils étaient devant au score. C'est ça la clé en fait. Moi, ce que je regrette dans cette première mi-temps des Montpelliérains, parfois, c'est que quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à marquer, c'est de parfois pas avoir pris les points au pied.
C'était le grand combat de Cédric Aymans et Philippe Saint-André dans les Grandes Gueules du Sport ce matin.
Moi, je pense que
ne comprenaient pas ces décisions en première période.
Je suis d'accord avec eux. Autant, tu vois, contre le Stade Français, tous les points qui se sont présentés au pied, Miotti les a pris et ils ont réussi à repasser devant. Avec le fameux 16-15, à un moment, ils repassent devant. Et je ne dis pas qu'ils seraient passés devant Toulouse hier, mais ils auraient marqué, justement, ce que dit Wilfried, le doute. Tu sais, quand tu vas en touche, que tu ne marques pas, tu te dis on n'y arrive pas. Et je trouve que sur ces temps forts, moi, je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs, j'en avais parlé lorsque Toulouse avait perdu son quart de finale européen. Je n'avais pas compris pourquoi Toulouse n'avait pas pris les points au pied. Et bien, samedi soir, je ne comprends pas pourquoi, au bout d'un moment, quand tu vois que tu n'y arrives pas, et bien, marque des points au pied, recolle au score, rapproche-toi à une marque. À deux marques peut-être, mais valide le travail de ton équipe avec des points. Parce que tes avances, tu les récompenses en disant voilà. Et c'est des fois des choix, je sais pas. En plus que pour le coup, Montpellier, cette saison, Johan Codulo, toute la saison, il a fait Guinovès, quoi. Il a fait 3 avec ses doigts à tous les matchs. Et hier
justement,
soir, je
Julien,
sais pas pourquoi il a pas fait.
Mais est-ce que Toulouse les a pas un peu pris à leur propre jeu en leur laissant le ballon, justement, en leur disant allez-y, jouez. Et en fait, Montpellier Montpellier n'est pas forcément capable d'envoyer du jeu à ce point-là. On voit l'essai de Picardo, c'est dans le désordre. Miotti tente quelque chose, mais j'ai trouvé qu'ils avaient du mal parfois à enchaîner les temps de jeu et à imprimer des longues séquences sur la défense du Stade toulousain.
J'en parlerai avec Johan Codulo parce qu'il m'a dit une phrase hier soir et samedi soir quand on l'a vu. Et alors, ça m'étonnerait Johan Codulo, mais je me demande s'ils n'ont pas eu un excès de confiance en se disant on est les plus forts devant, on va les tordre devant. On va leur prouver. Parce que quand je lui avais posé la question, vous n'aviez pas peur d'être pris pour des cons? Il dit non, mais on ne voulait pas passer pour des cons, on savait qu'on allait le faire. On était sûr qu'on pouvait le faire. Et je pense que tu vois, cette dynamique qui les porte, les 11 victoires où ils ont roulé sur tout le monde devant depuis des semaines et des semaines, je pense qu'au fond d'eux, ils se sont dit on va les marquer physiquement, on va leur faire mal et on va aller en touche et on va réussir à marquer des essais sur les groupes pénétrants. Je pense que, alors je me trompe peut-être, j'ai pas d'infos, mais je me demande s'il n'y a pas un peu d'excès de confiance sur certaines phases de jeu que Montpellier n'a jamais fait cette saison, de vouloir marquer ou faire son équipe. Je trouve que d'habitude, ils prenaient les points, ce qu'ils n'ont pas fait samedi soir, et c'est très surprenant.
On a beaucoup, messieurs, parlé de l'arbitrage de monsieur Luc Ramos. Évidemment, toujours dans le respect de son match, c'est un acteur comme les autres, mais les arbitres sont observés de très près sur ces matchs-là. Il y a des décisions qu'on pourrait qualifier de discutables?
Oui. Oui, autant le dire, mais dans un cadre, et on va le dire tout de suite, qui prend les arbitres comme des joueurs, ce que Mathieu Reynal l'a toujours dit, souvenez-vous, on l'a eu dans ce podcast, Mathieu Reynal, il nous disait les arbitres, ils font des erreurs, ils sont humains. Alors c'est difficile à entendre pour certains supporters parce qu'il y a des arbitres assistants, parce qu'il y a de la vidéo, et voilà. mais ils sont notés, les arbitres, ils sont récompensés ou pas récompensés. Il y a des arbitres qui descendent, des arbitres qui montent, ils sont promus, donc ils sont challengés. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire, Luc Ramos n'a pas besoin de nous pour faire son débrief et savoir ce qu'il a réussi ou pas. Et c'est vrai qu'il y a, allez, on ne va pas dénombrer les occasions, mais il y a quelques moments criards. On a parlé de ce premier porté groupé pénétrant Montpellier-Rhin où Vérague est sanctionné. C'est l'équipe qui a ballon qui est sanctionnée. Bon, pour s'être un peu renseigné auprès de professionnels de la profession, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est, en plus, c'est important parce que ça peut marquer. Toulouse menait, je pense, à ce moment-là. Est-ce que... Je sais pas
oui,
si il menait déjà.
Il menait.
Et Montpellier peut revenir et sanctionner. Il y a surtout, alors vraiment plus discrètement, parce que Toulouse le fait bien aussi, cette pince qu'ils font. Moi, je les vois faire depuis longtemps. Hein, sur les groupes pénétrants adverses, ils font une pince. Ils se mettent pas en face du groupe en front. Ils en mettent un de chaque côté. Ils entourent le groupe pénétrant pour l'étouffer avec Meafou qui est au-dessus pour mettre les bras. Voilà, ça, il peut y avoir des joueurs peut-être un peu plus sur le côté. Voilà. Mais il y a une situation qu'on a tous vue et qui aurait pu changer beaucoup de choses. Je ne parle pas de Welese, parce qu'on n'est pas... On est peut-être à 80%, on pense peut-être à 80% que c'est cadeau qui arrive, c'est ça
Oui, c'est cadeau qui est là, juste là. Ballon. Mais,
si on n'est pas à 100% sûr qu'il le prend, il y a ses pénalités,
moi,
si c'est 80%,
pour moi,
c'est pas assez.
Ouais, c'est plutôt...
Voilà. Il y a évidemment, et on a tous vu, la dernière action avant la mi-temps, le Roc Montpellier-Rhin à 2 mètres de la ligne et Thibaut Flamand qui fait Richie Macko. Mais le problème, c'est qu'en tribune, moi j'ai écarquillé les yeux. Il est tombé dans le Roc, j'ai vu son dos tomber dans le Roc, c'est-à-dire qu'il était en tombant, il met le dos à Montpellier, et il tombe dans le Roc, et les Montpellier-Rhin ne peuvent pas aller au soutien. Willis gratte le ballon et le prend. Mais ça, franchement. Il y a un arbitre assistant, on ne va pas le dire lequel des deux est là. Il est à 3 mètres, ce n'est pas possible de ne pas voir ça. Ou même à la vidéo, l'action est tellement importante. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça tue l'action, c'est jaune en fait. Et Montpellier aurait pu marquer et ça faisait 25-13 à la mi-temps au lieu de 25-6. Avec ce qui s'est passé derrière, peut-être que ça aurait changé des choses.
Et moi j'en ai vu d'autres. Le problème, c'est que j'ai vu
beaucoup de situations. C'est très important, Julien. Mais voilà, l'arbitre fait des fautes. Et je te répète, on respecte les arbitres dans ce sport et c'est important de le faire. Et pas de critiquer n'importe comment ou de les insulter.
Ouais. Johan Codulo, samedi soir d'ailleurs, ne s'est pas caché derrière ça. Il a dit que Luc Ramos était un très bon arbitre.
Tout à son honneur.
C'était pas de sa faute. Et exactement. Il a dit que c'était le manque d'opportunités. Mais en revoyant le match, il y a quand même beaucoup de situations.
Pourtant, tu as essayé de lui faire dire. Hein.
Pas moi, Wilfried a essayé de lui faire dire.
Ah pardon.
Non mais il y a.
Non, j'ai pas essayé de lui faire dire. J'ai demandé si. Juste, excuse-moi Julien, juste on lui, pour être. Parce qu'il balance ça comme ça, Pierre. On lui a juste dit est-ce qu'il y a des décisions qui voilà que vous regrettez. Voilà.
Donc il y a à la 10e minute, il y a un déblayage de Meafou sur le côté qui est vraiment vilain, qui est pas du tout sifflé, mais pourtant il est devant les yeux de Ramos. Hein. Donc tu as parlé de ce premier groupe pénétrant pénalisé, celui à la 40e. Il y a le groupe pénétrant à la 60e. À la 60e où Roumat il change sa liaison sur le groupe pénétrant, ce qui est pénalisable. Il y a trois chandelles tapées par les Toulousains où tous les Toulousains sont hors jeu et il y a qu'une seule fois où c'est sifflé pénalité. Et il y a une scène rigolote en renvoyant le match. Et c'est là où je trouve que c'est le plus dommageable parce que ça a privé les Montpellierains de leur domination. C'est que très clairement, Erdosio, il a pris le dessus sur Mercler, sur les mêlées. Tu vois que Mercler, il est en difficulté et que Ramos, il n'a jamais voulu arbitrer les mêlées en fait. Il s'est refusé de les arbitrer. Et à un moment, au début de la deuxième période, quand les Montpellierains, ils ont pris l'ascendant, donc il y a introduction. Et Monsieur Ramos siffle bras cassé et t'entends Erdosio qui dit à Mercler t'en veux pas des mêlées ce soir. Et tu sens qu'en fait Mercler il anticipait un peu les commandements pour il anticipait un peu les commandements pour justement pas avoir à l'affrontement. Et Erdosio il lui fait comme ça t'en veux pas des mêlées ce soir. Et c'est marrant. Et voilà, c'est ce que je reproche à Ramos, c'est de pas avoir arbitré les mêlées et d'avoir privé pour le coup d'un vrai point fort Montpellier-Rhin sur ce match là.
Un arbitre pour terminer sur louper aussi son match un petit peu, Pierre.
Bien sûr. Et encore une fois, on salue Johan Codulo qui ne s'est pas du tout caché derrière ça après la rencontre.
on peut aussi nous ne pas le mettre ça sous le tapis, mais en parler tranquillement, parce que ça déchaîne les passions évidemment sur les réseaux sociaux, et il y a des limites à pas dépasser aussi, quoi. Voilà.
Évidemment. Pour terminer sur Montpellier, Julien, c'est une saison évidemment réussie malgré tout. On peut écouter Lenny Nouchi rapidement, qui a des regrets bien sûr, mais qui retiendra beaucoup, beaucoup de positifs de cette année.
Et de la frustration bien sûr, parce qu'on échoue à 8 points et on perd une finale top 14. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a 2 ans, on jouait un access match. Cette année, on échoue à 8 points face au grand Stade Toulousain. Donc bien sûr qu'il y a de la frustration, mais comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est surtout beaucoup de fierté d'avoir pu jouer avec ces mecs. Il y a des mecs qui vont nous quitter, qui ont écrit l'histoire du club. Donc il faut juste essayer de retenir le positif. On aura le temps de regarder le match à froid, de pouvoir se faire des scénarios, mais le résultat il est là, c'est qu'on a regardé Toulouse soulever le bouclier. Ça fait mal, mais non, on a juste envie de montrer que le club de Montpellier grandit, et c'est pas juste une saison au hasard qui tombe de nulle part. On est un club qui évolue depuis 2 ans vraiment correctement, et on a envie de continuer comme ça.
Julien, t'es d'accord avec le capitaine montpellier? C'est quand même une saison réussie.
Je répète tout ce que, alors pour paraphraser Johan Codulo, il aurait signé dès le mois de janvier pour être 6e du top 14 et terminer à la 6e place. Si tu fais le bilan de la saison des Montpellierains, ils ont gagné un titre, le Challenge européen. Certes, ce n'est que le Challenge européen, mais dans un club qui n'a pas beaucoup de... trophées, ça remplit une armoire de trophées qui a été longtemps une salle de trophées sans trophées. Donc voilà, maintenant il y a des trophées dans cette salle des trophées. Et tu termines 2e du top 14. Tu fais une saison où tu as amélioré ton image de marque malgré tout. Tu es devenu sympathique. Le staff montpelliérain est sympathique aux yeux des gens. Tu arrives à t'attacher à des joueurs qui partent en plus en équipe de France. Et malgré tout, alors je le dis toujours, on oublie toujours la manière. On retient que le vainqueur et on oublie le perdant. Mais les Montpelliérains, ils ont eu le mérite de ne pas en prendre 70 comme le Racing, de ne pas en prendre 60 comme Bordeaux il y a 2 ans. Et d'avoir poussé Toulouse dans ses retranchements et les avoir fait douter, comme tu disais Pierre, depuis peut-être, on les a peut-être rarement vus douter comme ça depuis longtemps.
Malgré tout, c'est Toulouse qui gagne, messieurs. Le 4e de suite pour les Toulousains qui rejoignent donc la génération 94-97 de ce club rouge et noir. 12e finale consécutive gagnée, toutes compétitions confondues. Un 8 sur 8 pour Hugo Mola depuis qu'il est arrivé au Stade Toulousain. Et écoutez d'ailleurs le manager toulousain sur la pelouse, puisqu'il ne s'est pas présenté en zone mixte ensuite, mais sur la pelouse, comme habituellement, en s'entourant de ses joueurs, en attendant bien sûr que le micro du diffuseur arrive, et il a envoyé cette tirade.
Ah, bravo les mecs. Ce qui est bien, c'est 4 fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avec la seconde mi-temps de merde qu'on fait. Donc on a encore de la marge. Par contre, bravo les mecs. Vous êtes exceptionnels. Le club est exceptionnel, l'équipe est exceptionnelle, et continuons comme ça les mecs. Allez, garde maintenant. Allez.
Wilfried, Hugo Mola pense déjà à la 5e. Est-ce que tu penses qu'ils vont passer l'été en se disant déjà que,
ouais,
que
parce c'est que ça là, toi, ils ont leur ressort pour l'année prochaine, tu vas pas l'éviter. Hein. Là, ça, tu vas pas éviter le Capitole tout l'année prochaine, tu sauras.
Aux gens que les festivités du Capitole ont été annulées pour cause d'orage. Oui, bah écoute, fais 10 fois le Capitole, tu verras, Julien, si tu n'en as pas fait le tour. Non, ils vont peut-être pas y penser dès cet été, mais parce qu'il va falloir qu'ils coupent aussi, hein, parce que c'est les saisons sont harassantes, oui. Hein, et durer depuis tant d'années aussi, il faut savoir se ressourcer. Mais le thème de la saison prochaine, il est tout trouvé en fait. Oui. Voilà. Mais on le savait presque même avant les phases finales. Rappelez-vous, dans une interview, Romain Tamac, on l'avait évoqué. Voilà. Et pourquoi pas 4? Et s'il y a 4, bah, pourquoi pas 5? Parce que ça, personne n'a fait. Et faire ce que personne n'a fait, ça colle parfaitement à cette équipe, à ce groupe, à cette génération. Donc,
mais c'est vrai qu'ils vont, ils vont systématiquement chercher des sources de motivation à l'intérieur du club, à l'extérieur du club, avec ce, évidemment, ce tout le monde est contre nous qui marche très bien. C'est le ressort le plus efficace.
Ouais,
et c'est vrai que là, c'est un ressort évident.
C'est leur mode de fonctionnement. Mais y compris. Pour un simple entraînement dans la semaine, voilà, des échos qu'on a, c'est que c'est très difficile d'entraîner ce groupe parce qu'il faut arriver armé en fait. Parce que les Dupont, les Ramos, Ntamack et tous les autres joueurs, les Flamands, ils demandent des choses. Et on dit, c'est Virgile Lacombe qui l'expliquait l'autre fois en conférence de presse, il disait, ok, on va leur préparer un exercice, mais ils vont nous dire, mais pourquoi on fait ça? Et si toi tu fais ça, ah bon, mais pourquoi mais pourquoi ce serait pas mieux de le faire comme ça? Parce que nous on le voit comme ça, donc et vous vous pensez ça? Ah oui, mais donc faut imaginer, c'est ça. C'est ça le fonctionnement de comment ces mecs sont câblés. Bon, sans les porter au nu hein, non plus, mais les résultats parlent pour eux, quoi. Donc c'est.
Bien sûr.
C'est incroyable.
Oui, je me rappelle, tu sais, ce que Laurent Labitte t'avait dit sur Antoine Dupont. Quand il allait voir les joueurs après match en disant ouais, t'as pas fait ça. Et les joueurs disaient ouais, mais c'est bon, Antoine, il me l'a déjà dit.
Oui, c'est vrai. Laurent Labitte disait ça dans son époque avant de quitter l'équipe de France en 2023. Et il disait j'allais voir les mecs,
j'allais voir les joueurs pour
leur dire. Antoine me l'a déjà dit, Laurent, c'est bon.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'auto-alimentent. Il le disait Virgil Lacombe hier après le match, on va chercher de la motivation, des ressorts intérieurs. On a l'impression que c'est une machine qui tourne toute seule. C'est un mouvement perpétuel qui ne s'arrêtera jamais parce qu'ils se nourrissent les uns les autres, ils trouvent des sources de motivation. Et le titre, là, cette saison, il semblait presque inéluctable. C'est que tu démarres la saison, tu vois qu'ils sont rapidement premiers, tu démarres les phases finales, tu vois que tout le monde se fatigue, puis ils en mettent 70, puis ils gagnent. Il y a des doutes, eux, ils ne doutent pas du tout. Et on a l'impression que c'est une machine qui est inébranlable.
Quoi, après toutes ces années, en fait, quoi. Ils savent gérer.
Bon, on les classe pas.
C'est
les plus grands, pas les plus grands.
Si, moi, je pense que c'est la plus grande génération.
Pour toi, c'est les plus grands. Ouais.
Ouais.
Plus que 94-97, justement.
Bah. Oui, parce que c'est plus étalé. Alors, il y a eu le Covid, ils en ont loupé une fois, c'est Montpellier. Mais ça dure depuis 2019, quand même, hein. Et l'année prochaine, ils seront encore là pour essayer de faire la même chose. Alors, il y a bien un moment où ça s'arrêtera. Parce que ce top 14 est très dur, les autres clubs bossent bien aussi. Bah, un autre club qui bosse bien, qui fait une saison de feu. Un Bordeaux, un Montpellier, c'était pas loin. Voilà. Donc, un moment, ça s'arrêtera. Un moment, ils seront un petit peu moins fins. S'ils en gagnent un cinquième, d'aller chercher un sixième,
il va falloir trouver d'autres sources de motivation.
Bah non, mais ça fera quelque chose qui tombe. Et voilà, à un moment, il y a une Coupe du Monde en plus derrière. Il faut repartir là après. Hein. Même si, attention, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et ce groupe s'auto-alimente en fait, au fur et à mesure. C'est un peu, ça me fait penser, je pense à l'instant, aux experts, aux Barjot, l'équipe de France de Hand, avec des mecs qui arrivaient comme ça et qui alimentaient à chaque fois. Et le niveau ne baissait pas en fait. Et c'était un savoir-faire qu'on se passait. Bon, ça s'est arrêté un jour. Donc voilà, c'est pas éternel. Mais pour moi, Julien, je pense que c'est.
Pour moi, c'est les plus grands, mais c'est les plus grands grâce à l'adversité, en fait. Parce qu'en 94-97, je dis pas que c'était plus facile d'être champion, mais il y avait plein de matchs dans la saison.
Mais c'était plus facile d'être champion.
ils ont battu, dans mon souvenir, Clermont en 94, Castres en 95.
Brive. Et Bourgoin.
Ouais, c'est ça. Et Bourgoin. Un peu sur une saison exceptionnelle. Là, il faut se rendre compte que du coup, Toulouse, ils battent deux fois La Rochelle en finale, qui est donc double champion d'Europe. Donc, c'est-à-dire qu'ils battent malgré tout la meilleure équipe d'Europe en finale top 14. Ils battent Bordeaux, qui est champion d'Europe. Et ils battent les Montpelliérains, qui est peut-être pas la plus grosse équipe de la saison, mais qui est sur une dynamique incroyable. Et puis
toute l'année, Julien.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est n'oublions pas que dans la saison, ils finissent en éclatant les records de points, en se rapprochant du plus grand nombre de points de la saison. Les doublons, c'est même plus un problème pour eux. Dans la constance qu'ils ont, dans les performances, au nombre d'essais marqués, je trouve qu'elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus forte, parce que l'adversité les rend plus forts. Et pour moi, c'est la meilleure génération de l'histoire du rugby français, sans le moindre doute possible.
Oui, on est obligé de signaler qu'il y a aussi l'ombre des affaires.
J'allais
bien sûr. Pardon.
Non, vas-y. Non,
et que évidemment ça jette une petite ombre sur, parce que les autres clubs, les autres supporters diront c'est facile, ils ont un effectif XXL, donc ils gèrent toute l'année. Donc il y a eu des sanctions, il y a eu des amendes, donc on ne peut pas. C'est vrai que les supporters toulousains, leur réplique favorite sur les réseaux sociaux, c'est oui, mais les autres trichent aussi, on le dit pas, machin. Oui,
pour l'instant ils ne sont pas
prendre. Donc on ne peut pas ne pas le dire à un moment que on verra par la suite que ça donnera, et que c'est vrai que il faut le souligner. Bon, ça fait pas tout
bien
sur
sûr,
la formation toulousaine, sur leur science du recrutement, quand vous avez vu les Kinghorn, les Willis, quand il y aura Menoncello, voilà, qu'il y a une stabilité.
Ouais, bon, c'est moyen pour le salary cap, Will. C'est quand même
c'est ça, Will,
qui interroge.
T'as raison.
Non, mais moi, par contre, les Gourgues, les Cramon, les Brennan, les Banos, tous ces joueurs-là, Merkler, des joueurs qui, Netti, Aïnou, des joueurs. Voilà, ça, c'est des joueurs qui sont formés au club. Et ça, pour le coup, tu dois valoriser.
La formation. Tu as été cherché en Espagne, voilà. Mais pour Merkler, Aïnou aux États-Unis.
Oui, exactement. Voilà. Mais Noncelo, bon, ben bah, là, Noncelo, il a envie d'aller. Menoncello, il a envie d'aller gagner des titres, il va à Toulouse. Comment ils arrivent à monter le dossier financier, ça c'est notre débat. Mais la formation toulousaine, d'ailleurs, j'ai vu hier soir que toutes les catégories jeunes ont perdu cette année. Les espoirs, les cadres, les Goderman, les Alamers.
Il manque les cadets.
C'est la,
il manque les cadets qui jouent
la première année. C'est la première année que les jeunes ne gagnent pas à Toulouse. C'est aussi ça, c'est que Toulouse, toutes les catégories jeunes, ils remportent tous les trophées quasiment chaque année. Donc en plus de bien recruter, ils forment bien. Donc au bout d'un moment, Philippe Saint-André le disait d'ailleurs dans les grandes gueules, Toulouse, ils gagnent, mais ils ont le droit de bien travailler aussi. Donc reconnaissons le travail. Il y a effectivement des affaires qui peuvent.
J'ai souligné le travail exactement. Aussi, Julien.
Mais ils travaillent bien.
Faut pas se cacher les yeux comme ça et il faut aussi signaler ça.
Dire qu'il y a peut-être des choses qui posent problème. Recruter Menoncello, Willis, Kinghorn, plus offrir des prolongations à Flamand, Ramos, Dupont, Ntamack. Évidemment que ça interroge quand tu sais que tous les clubs sont à 11 millions de salarié cap. Ils ont les crédits internationaux qui les aident. Mais évidemment que ça interroge. Mais on peut aussi saluer.
Mais
la
Julien, ça fait plus qu'interroger. Moi, je suis d'accord que Toulousain travaille très bien et qu'il faut les saluer. Mais ils vont passer à nouveau dans la convention de discipline. On parle d'une amende qui pourrait être de près de 10% du budget total du Stade Toulousain, de 5 millions. Et ce n'est pas rien d'avoir une équipe qui domine autant, mais qui est aussi autant critiquée.
Et c'est une sanction qui peut en amener d'autres, parce que tout le monde ne s'est pas saisi du dossier. Il peut y avoir des. Ils ont eu deux points de pénalité cette année, n'oublions pas. Bien sûr.
Quand on parle d'une équipe qui domine autant, on ne peut pas oublier ce que l'opinion publique pense de cette équipe-là.
Pas.
Et est-ce que, c'est ma question, est-ce que ces sanctions-là, le fait qu'on sache qu'il y a eu de la tricherie dans le passé et qu'on va peut-être le savoir à nouveau, est-ce que ça ternit un petit peu l'image de ces boucliers successifs qui s'enchaînent donc pour le Stade Toulousain? Ou est-ce que c'est on dissocie complètement le sportif de comment bosse le club?
Moi c'est toujours pareil. Ça dépendra ce qui est sanctionné. De ce que j'ai compris, là, ils sont rattrapés. Alors, il y a l'affaire Jolonge, ils pourraient être rattrapés aussi pour des primes de finale. Si tu triches pour avoir un effectif XXL par rapport aux autres, évidemment que il va y avoir une injustice notoire. Et que là, ça va jeter un voile d'ombre sur la dynastie toulousaine. Si effectivement tu t'es rendu compte que y a des joueurs qui sont payés avec des droits à l'image, ce qui passe avec Anthony Jelonche. Moi, ça va dépendre exactement de ce qu'on va apprendre de la sanction. Si tu te rends compte qu'ils peuvent avoir un effectif XXL parce qu'ils ont triché, évidemment que ça va jeter une part d'ombre sur la dynastie toulousaine, parce que tu te dis ils peuvent gérer vu qu'ils ont un effectif qu'ils ne devraient pas avoir, qu'ils n'auraient pas l'autorisation d'avoir s'ils respectaient les règles. Mais on n'en est pas encore là.
Bien sûr. Et au-delà de ces affaires-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de lassitude possible chez les joueurs ou chez les supporters? On a senti hier au Stade de France, l'ambiance n'était pas dingue en première période. Quand c'était trop facile, on sentait que les supporters toulousains, ils chantaient sur Big Flo Eli et sur Claude Nougaro quand il y avait des marques. Mais c'est quand c'est devenu compliqué avec le retour de Montpellier qu'on a senti un peu la furia toulousaine dans le stade. Est-ce que y a un risque de, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais de lassitude à la fois des joueurs et à la fois du public qui suit cette équipe du Stade toulousain?
Moi j'avais vécu un peu mais ça jouait. Il y avait un jeu qui était un peu plus terne quand ils ont fait 2008 champion de France, 2010 champion d'Europe, 2011 champion de France, 2012 champion de France. Il y avait c'est vrai que
c'était moche, Wilfried.
Repu. Non mais les supporters étaient un peu repu, quoi. Et après ils ont pas été champion de France pendant 7 ans. Donc et là
le titre de 2012, il est gagné avec Steenkamp et Johnston. C'est pas le plus beau des titres du Stade Toulousain, mais il compte dans le trophée, mais c'est pas le plus beau.
oui, donc peut-être que au fur et à mesure les. Vous savez, des fois, l'ambiance Ernest Vallon n'est pas des plus incandescentes. Peut-être que c'est inéluctable, leur équipe gagne à chaque fois, donc ils ne sont pas si stressés pour les attendre la fin, pour sortir les drapeaux. Et voilà. On verra, mais c'est ça gagne tellement depuis tellement longtemps. Là, c'est normal d'être un peu repu, finalement.
pour terminer, on va faire ce que Wilfried déteste, un pronostic. Messieurs, qui remporte le top 14 2027 la saison prochaine? qui, allez, je pense qui est favori pour remporter le
titre. L'UBB va mettre beaucoup de choses dans ce top 14 après cette année. Mmh. Voilà, difficile. Ils ont remporté deux fois la Coupe d'Europe. Ils vont avoir envie d'aller challenger ces Toulousains, mais ils ont l'occasion d'effacer. Voilà, d'être les seuls au club. Les seuls dans ce club qui a tout gagné si longtemps, depuis tellement longtemps. Donc, moi, je mettrais bien une pièce sur Toulouse.
Julia ? Julien n'est plus là.
Je suis là. Réfléchissais. Ah, ils gardent tous les joueurs qu'ils ont. Hein. Ils gardent l'intégralité de l'effectif. Ils perdent personne à l'intersaison.
Oui. Ah, ils perdent Saïto. Ils récupèrent Menoncello.
Et en plus, c'est ça. Il y a Menoncello qui arrive, qui est le meilleur centre du monde, quasiment. L'un des meilleurs centres au monde. Donc, c'est-à-dire que
j'y pensais. Et
déjà, mon
gars, j'y pensais. En voyant le match hier, les difficultés des fois de la paire de centres de Montpellier à traverser. Et la puissance de Menoncello au milieu, là. T'as besoin de joueurs hors normes comme ça. Et c'en est un qui arrive.
Donc, tu récupères Menoncello. Il y a Malia, non? Il va revenir aussi, je crois, Juan Cou.
Ah Malia, oui, il y avait Malia et Jelonche qui n'étaient pas là.
Il y avait Jelonche aussi.
Et Capozzo, il jouait pas.
Et Capozzo qui était 24e. Ouais, vraiment j'hésite sur qui sera champion, Pierre, la saison prochaine. J'ai un gros doute sur le favori.
Je pense qu'il peut déjà réserver Capitole.
Il n'est pas Anthony Jelonche.
Il peut réserver
Capitole.
C'est toi
qu'on en verra pour la peine, pour que tu goûtes.
On peut peut-être lui réserver un siège sur le Capitole pour le dimanche, dernier dimanche de juin l'année prochaine. Pour qu'il soit à l'aise quand même, Wilfried. Merci beaucoup, messieurs, pour votre expertise. C'est la fin de ce podcast, la fin de la saison Top 14 également. On va rester avec vous tout l'été pour parler des Bleus d'abord, puis on fera quelques pas de côté sur l'actu avec un quiz, un épisode sur les jeux dans Top 14, un Top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire qui va faire parler, c'est certain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Salut tout le monde!